Lizzie présente Vampiria, livre 1, La cour des ténèbres, de Victor Dixen, lu par Marie Dubled. Pour eux, pour mes parents, pour ma sœur Lisa. Nous pouvons tout ce que nous voulons tant que nous sommes vivants. Après notre mort, nous pouvons, moins que les particuliers. Parole du roi Soleil, au soir de sa vie. Enfin, Louis le Grand est mort. La parque a terminé son sort. Au Reguingué, au long Lala. Elle vient de trancher sa vie, toute l'Europe en est ravie. Chanson populaire à la mort du roi Soleil, avant sa transmutation en roi des ténèbres, le 31 octobre 1715. Préambule. Par la grâce des ténèbres, la société de la Magna Vampiria est divisée en quatre ordres. Un ordre immortel, les vampires de la haute noblesse, et trois ordres mortels, les hobereaux de la basse noblesse, les docteurs de la faculté hématique et les roturiers du quart état. Les articles ci-dessous concernent cette dernière population. Article 1er. Obéissance. Obediencia. Les roturiers naissent et demeurent sous la protection des vampires, en contrepartie de laquelle ils leur doivent une soumission totale. Article 2. Parcage. Sequestrum. Durant le jour, tant que brille le soleil, les roturiers ont interdiction de s'éloigner à plus d'une lieue de leur clocher. Article 3. Couvre-feu. Ignitegium. Durant la nuit, dès que sonne le tocsin, les roturiers ont interdiction de quitter leur domicile. Article 4. Dim. Decima. Chaque mois, les roturiers ont obligation de verser un dixième de leur sang. Article 5. Sanction. Supplicium. Tout contrevenant aux articles précédents sera exécuté. Chapitre 1. Visite.
Au nom du roi, ouvrez immédiatement !
Ordonne une voix tonitruante. Mes parents échangent un regard paniqué au-dessus de la table où nous venons de nous installer pour souper, tous les cinq. L'aîné de mes frères, Valère, se fige. Le cadet, Bastien, laisse sa cuillère tomber au sol. Moi, la Benjamine, je la ramasse, car je passe toujours derrière Bastien. Qui cela peut-il bien être, un dimanche à une heure pareille ? Demande ma mère. Elle consulte la vieille pendule qui indique 7 heures du soir à peine passée, à côté de l'almanach placardé au mur, ouvert sur la date d'aujourd'hui, le 31 août de l'an des ténèbres, 299. En guise de réponse, un poing martèle la porte d'entrée, faisant trembler le bouillon de faisan qui fume dans nos assiettes. Mon cœur tremble bien plus fort encore. « Au nom du roi », a annoncé le visiteur du soir. Il aurait aussi bien pu dire « Au nom du diable en personne ». Je lorgne la gravure encadrée de Louis l'Immuable, trônant au-dessus de notre cheminée comme dans tous les foyers de France. Les longues boucles du souverain ont depuis longtemps perdu leur teinte brune. Ou plutôt, c'est le papier lui-même qui s'est délavé au fil des ans, car il a été imprimé longtemps avant ma naissance. Le visage du roi, lui, n'a pas pris une ride. Et pour cause, il est dissimulé derrière un masque d'or figurant des traits lisses, sans âge et sans expression, au milieu desquels émergent deux yeux noirs qui scrutent sévèrement tous les sujets du pays. Les lèvres de métal, closes et énigmatiques, sont plus glaçantes que si elles dévoilaient les canines aiguisées se cachant dessous. Réprimant un frisson, je cours à la fenêtre de la salle à manger pour tenter d'apercevoir ce qu'il se passe dehors. À travers le carreau en verre épais, la rue principale de la Butte aux Rats est baignée dans une lumière dorée, aveuglante. Nous sommes à la fin de l'été, quand les journées sont encore longues sur les plateaux d'Auvergne. Quand le soleil se couche après 8 heures, et quand les vampires se lèvent tard. C'est la saison la plus heureuse de l'année, les quelques semaines où il fait juste assez bon pour sortir sans manteau. C'est le moment où les villageois parviennent presque à oublier le code mortel, qui depuis des générations écrase la Magna Vampiria, une vaste coalition rassemblant le royaume de France et ses vice-royaumes. Jeanne, éloigne-toi de la fenêtre, m'intime ma mère. Ne prends pas de risques inutiles. Elle rabat nerveusement derrière son oreille une mèche de sa longue chevelure brune. Mes propres cheveux, coupés au-dessus des épaules, sont gris depuis toujours. Il n'y a que maman pour trouver cette anomalie charmante. Les rayons ne vont pas me brûler la peau, dis-je en haussant les épaules. Je ne suis pas une suceuse de sang.
N'emploie pas de telles expressions,
se récrie mon père, outré, en frappant du poing sur la table. Il est toujours le premier à s'indigner qu'on manque de respect aux vampires, tel le bon citoyen à la botte du régime qu'il a toujours été. Il a religieusement installé sous le portrait royal des chrysanthèmes séchées, les fleurs des morts vivants. C'est que l'année prochaine, le pays fêtera le jubilé du despote. Près de 3 siècles se sont écoulés depuis sa transmutation. En l'an de grâce 1715 de l'ancien calendrier, la nuit où il aurait dû mourir de vieillesse au terme d'une interminable fin de règne marquée par la guerre et la famine. Plutôt que de se coucher à jamais, le roi Soleil a accompli un rituel médical terrible et secret. L'opération lui a offert l'immortalité, tout en mutilant son visage. Louis XIV est devenu Louis l'Immuable, le roi des ténèbres, le premier vampire de l'histoire. Rapidement, tous les monarques du continent lui ont prêté allégeance pour se transmuter à leur tour en immortel. L'Europe s'est figée dans un joug de fer et le climat lui-même s'est enrayé. Un âge glaciaire s'est emparé des terres, l'ère des ténèbres.
« Ouvrez immédiatement ou nous défonçons le battant !»
hurle la voix à l'extérieur, de plus en plus véhémente. Le poing se remet à tambouriner à la porte de l'apothicairie attenant à nos appartements, dont l'entrée donne sur la place du village. Mes frères se lèvent à leur tour. Valère se précipite vers le buffet pour en sortir le long couteau avec lequel papa a découpé le faisan que j'ai braconné le matin même dans la forêt. Bastien se contente de jeter des regards affolés. Tibère, le vieux matou de la maison, délaisse son assiette d'abat pour aller se réfugier dans un coin. Quant à moi, je me campe instinctivement sur mes jambes, mes cuisses se tendant sous ma culotte en peau de mouton. J'ai beau être petite pour mes 17 ans, mon corps est vif et rodé à la course.
Je reconnais les manières de la prévôté,
murmure Valère, clignant des yeux derrière les besicles qui le vieillissent. Il a toujours été le plus nerveux de la famille.
Calme-toi, Valère, lui ordonne maman, d'une voix à la fois douce et autoritaire. Lâche ce couteau, il ne va rien nous arriver.
Il s'exécute. Devant notre mère, mes grands frères filent doux. À la boutique, c'est elle qui tient les cordons de la bourse, et à la maison, c'est elle qui a le dernier mot. Maman a raison, il ne va rien nous arriver, dis-je. Tout simplement parce qu'il n'arrive jamais rien ici. Pas vrai, Bastien? Malgré le ton moqueur que j'adopte pour arracher un sourire à mon frère préféré, je ressens une obscure inquiétude. Qui pourrait en vouloir au couple Froid de Lac, honorable apothicaire d'un bourg perdu au fin fond de l'une des provinces les plus enclavées de France, à 20 lieues de Clermont, la ville la plus proche? Mes parents ont toujours payé l'impôt, que ce soit celui de l'or ou celui du sang. 12 fois l'an, mon père aide même le docteur Boniface à pratiquer la saignée sur tous les habitants du village, en commençant par lui-même, sa femme et ses enfants. Sous le code mortel, la charge d'un apothicaire n'est pas seulement de fournir des remèdes aux gens, mais aussi de leur soutirer le précieux liquide. Telle est la dîme collectée par la faculté hématique, du grec haematos, le sang, religion fondée par les prêtres médecins qui ont transmuté le roi. Nous autres roturiers, nous devons verser 1/10 de notre sang en sacrifice, pour nourrir nos seigneurs et maîtres. Chaque mois, le docteur Boniface envoie 200 flacons pleins à son supérieur, l'archiâtre de Clermont, ainsi qu'on nomme les prélats ayant remplacé les évêques de jadis.
Nous n'avons rien à nous reprocher, n'est-ce pas? Mis à part d'être mortellement ennuyeux,
dis-je en décochant un nouveau clin d'œil à Bastien, le seul à la maison capable d'apprécier mon humour noir. Mon père opine du chef, comme il le fait habituellement pour rassurer les malades. Mais son front est plissé par l'angoisse. Je ne l'ai jamais vu comme cela. Ou plutôt si, c'était la tête qu'il affichait par cette glaciale nuit de décembre il y a 5 ans. Les hommes du prévôt avaient traîné jusqu'à l'apothicairie un voyageur étranger au manteau couvert de neige. Le pauvre bougre avait bravé le couvre-feu, interdisant aux gens du Caréta de circuler sur les routes passé le crépuscule. Il avait été victime d'un vampire de passage, dont on ne connaîtra jamais le nom. Les seigneurs de la nuit ont le droit de se nourrir à leur guise sur ceux qui sortent après le son du tocsin.
« Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
gentilshommes, nobles dames et seigneurs vampires. Avant que le jour se lève, veuillez accueillir les violons du roi des ténèbres pour une dernière interprétation de la gigue sans repos. La salle de bal est à vous. Musique.